Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et Divergence FM 93.9 vous propose son émission littéraire Lecture par tous, une émission proposée par les collecteurs. Alors, la dernière fois, nous avions consacré une émission à un auteur local, Charles Aubert, et je vous avais promis que nous allions rencontrer un éditeur spécialisé dans la langue occitane. Il est là, il est à mes côtés. Bonjour Jean-Paul Cressac.
Adieu à toutes, bonjour.
Voilà, vous avez entendu l'occitan, c'est parti. Et donc, nous allons parler du travail d'un éditeur local qui est installé à Montpérou. Hein, alors, comment on dit Montpérou en occitan ?
Montpérous.
Montpérous, ça va, c'est pas trop compliqué.
On
reconnaît. Hein. Et c'est les éditions, alors je vais essayer de bien prononcer, les éditions Journe.
Voilà, Journe.
Voilà, Journe, Journe en français, hein, J-O-R-N. Alors, d'abord, Jean-Paul Cressac, vous avez choisi ça, vous êtes viticulteur par ailleurs, vous tenez aussi un gîte, si je ne me trompe.
L'hostal del poète.
L'hostal del, voilà. L'hôtel du poète. Oui, parce que...
La maison du poète.
La maison du poète, parce que vous êtes poète au départ.
Voilà, bien sûr. Je pense que tout éditeur, quelque part, c'est un écrivain qui ne s'ignore pas, qui écrit aussi. Hein. Et donc, surtout dans notre domaine occitan, où l'écriture, pour nous, est importante, autant que la l'oralité. On se retrouve aussi à travers, à travers l'écrit. La langue, on la fait vivre aussi à travers l'écrit. Et donc, être éditeur, c'est un prolongement de l'écriture. On n'a pas monté nos éditions, parce que je ne suis pas seul, hein, nous sommes trois à l'heure actuelle. Nous n'avons pas monté les éditions de jour uniquement pour nous publier, mais pour publier les autres. Hein, c'est pas de l'auto-édition, c'est véritablement de l'édition avec un choix littéraire, une politique éditoriale, comme dans une maison d'édition normale, entre guillemets. C'est vrai qu'on est peut-être un peu anormaux, puisqu'on utilise une langue qui n'est pas trop reconnue en France, donc qui a un avenir incertain, une existence difficile. Donc on est à la fois écrivain, donc on écrit notre langue, mais aussi on est porteur, on est un peu militant dans notre langue quelque part. Hein. C'est tout va ensemble en fait. Voilà. On est porteur, on est les ambassadeurs de notre culture.
Hein. Alors, je voulais justement poser la question un peu du projet de John. Bon, voilà, on l'entend, hein, quelque chose du côté de la langue. Oui, parce que l'occitan, c'est une langue menacée, c'est une langue vivante. Des fois, moi, je suis très provocateur avec certains occitanistes. Je leur dis, mais l'occitan, c'est presque une langue morte.
Tout à fait.
On est dans un paradoxe. Quel sens ça a aujourd'hui de publier en occitan ?
On est dans un paradoxe, je crois. On peut traverser l'Occitanie de la Provence jusqu'à la Gascogne sans entendre un mot d'Occitan. C'est tout à fait possible aujourd'hui.
Oui, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une autre langue régionale, qui est le catalan.
On
va à Barcelone, on entend du catalan partout.
Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que la langue d'oc n'est plus véhiculaire. Elle est résiduelle au niveau de l'oralité. Après, on peut la faire fonctionner. C'est-à-dire que moi, mettons, je vais sur Montpellier chaque semaine, je fais des livraisons de vin, et régulièrement, je parle en occitan à Montpellier. Alors qu'on peut traverser la ville sans entendre un mot d'occitan. Mais quand je vais quelque part, toujours dans mon français, je mêle un peu de langue d'oc, quelques expressions, et je vois si la personne en face me répond ou pas. Et souvent, les gens qui ont un peu mon âge, c'est sûr, c'est peut-être pas... Et quoique des jeunes aussi qui auraient pu passer par les calendrettes ou par l'enseignement public, et qui, dans leur famille, auraient un peu de connaissance de la langue, sont contents de parler avec moi. Et donc, tout compte fait, je véhicule avec moi une langue vivante, en fait. Hein. C'est ça, comme chez moi, au village, quand on parle de la vigne, y a beaucoup d'expressions en occitan, si c'est pas avec certains... une langue courante. Hein. Pour certains, encore, c'est une langue qu'ils peuvent maîtriser. Voilà, donc, tout le paradoxe est là. C'est-à-dire qu'on ne l'entend pas, mais on peut la revitaliser facilement.
Encore qu'on l'entend, je trouve, on l'entend beaucoup dans le français local, si je puis dire. Vous évoquiez la question de la vigne. Il y a tout un vocabulaire de la vigne occitan qui est francisé aujourd'hui. On va espoudasser, oui, on va, voilà, oui. On va s'occuper des gabelles.
Donc on peut partir, tout à fait. On peut partir de la langue, de cette langue du francitan. On peut parler un peu comme un œnologue, mais enfin bon, dans la linguistique, cette langue mêlée, ces mots de résiduels en occitan dans la langue, pour se réapproprier la langue. À partir de là, c'est toujours possible. Hein. C'est jamais rien n'est perdu de toute façon. Tant qu'il y a quelques mots d'occitan qui traînent, un peu d'accent aussi qui traîne. C'est possible de récupérer la langue. Donc, voilà. Comment dire ? Pour nous, l'écriture, c'est comme une langue complète, totale. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire c'est une langue résiduelle. Non, c'est une langue complète. C'est-à-dire qu'on peut tout dire en occitan. Il suffit de la travailler et de parler dans certaines circonstances avec des gens qui connaissent bien la langue. C'est là le problème de trouver les interlocuteurs.
Alors, je me disais en vous entendant, mais l'occitan, est-ce que c'est une langue, je dirais, actualisée ? C'est-à-dire qu'il y a... Est-ce que le vocabulaire, le lexique de la langue a suivi les évolutions technologiques, modernes ? Comment on parle ? Est-ce qu'on peut parler d'informatique en occitan ?
Tout à fait, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a José Anubo, qui est une ethnobotaniste réputée, qui a fait tout un travail sur la langue scientifique en occitan. Elle a écrit un gros volume là-dessus. Et donc, quasiment tout est possible en occitan, comme toute langue latine d'ailleurs. On se retrouve comme l'espagnol, l'italien, etc., hein, ou le catalan. On est proche, en fait. Souvent, les mots techniques se sont issus de mots latins, grecs ou anglais aujourd'hui. Mais en fait, on peut tout à fait bien les occitaniser. Hein. C'est pas un grand gros problème ça. Hein. C'est pas le problème en fait. Hein.
Alors l'occitan, alors, on dit l'occitan dans les médias en général, enfin le grand public le parle comme ça. Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il ne faudra pas parler plutôt des occitans, parce qu'il me semble que l'occitan classique qui est enseigné du côté de la faculté de Toulouse, celui qui se parle dans les villages autour de Montpellier ou dans le Gard, c'est peut-être pas tout à fait le même.
Alors, je pense qu'il faut se baser sur la linguistique. Toute langue n'est pas unique. Le français, par exemple, n'est pas unique. On parle aujourd'hui le dialecte de l'Île-de-France, en fait. Hein. On ne parle pas le normand, ni le picard, ni... C'est le dialecte de l'Île-de-France. Donc il y a eu sa richesse, son heure de gloire à travers la royauté. Donc l'occitan, en fait, ou languedoc, puisqu'on a parlé de languedoc, est issu du latin, bien sûr. On est proche du latin, comme le français, entre autres. Et... en fait, avec une mosaïque de dialectes, comme toute langue avait des mosaïques de dialectes. Alors, ce que nous, en France, ça paraît impossible, dans les pays voisins, c'est tout à fait possible. Vous allez en Italie, suivant les régions, ce sont des dialectes différents. En Espagne, n'en parlons pas. Bon, il y a dialecte et langue aussi. Hein. Donc, le catalan est une langue. Après, ça dépend comment les gens l'expriment. Alors, c'est vrai qu'il y a des polémiques sur le domaine occitan. Il est tellement large. Ça va de l'Italie à l'Espagne jusqu'au Pays Basque bon, et jusqu'à l'Auvergne. Donc, c'est quand même vaste. Donc, chacun a sa perception de la langue qui est différente. Alors, c'est compliqué. Il n'y a pas d'unité, d'unité linguistique. C'est compliqué. On a de l'intercompréhension entre les dialectes. Mais parfois, c'est plus facile, peut-être pour moi, de comprendre le catalan que le gascon, éventuellement. Donc, c'est vrai. Et pourtant, on a une intercompréhension avec le gascon. Mais comme ils font des formes auxquelles on n'est pas habitué, on est un peu perdu. Alors que le catalan, surtout le valencien, je le comprends très bien.
Oui, c'est une des variantes du catalan qui est réputée voilà. Très proche de l'occitan, oui. le valencien. Alors... quand on parle littérature occitane, alors, allez, on pense troubadour, des auteurs d'il y a très longtemps, des Bernard de Ventadour ou d'autres. Qui sont les auteurs qui écrit aujourd'hui en occitan ? C'est ce qu'on a du mal à peut-être à percevoir dans le grand public, qu'il y a une littérature occitane contemporaine. À quel point ?
Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'interruption de la langue littéraire en occitan. Il y a eu des époques de renouveau de la langue, où la langue était popularisée à travers des mouvements. Alors, le plus connu aujourd'hui, c'est le Félibrige avec Mistral. Donc, Mistral qui a eu quand même le prix Nobel de littérature.
Quand même, oui.
Donc, quand même une reconnaissance de la langue qu'il écrivait en provençal, qui est une dialecte de la langue d'oc. Et à cette époque-là, donc fin 19e et début 20e, il y a eu une popularité dans le monde rural, bien sûr, mais en ville aussi. Hein, la langue était très présente à Marseille, par exemple, où il y avait des poètes sociaux qui ne voulaient pas entendre parler d'ailleurs du Félibrige, parce que le Félibrige, c'était plutôt bourgeois et rural. Mais à Marseille, il y avait des poètes qui étaient sociaux, disons. Même à Clermont-Léraud, ils parlaient de la sociale. Donc, c'était une tendance plutôt socialiste. Et donc, c'était très varié. Hein. Et il y avait même des auteurs improbables, des ouvriers agricoles. Chez nous, dans les villages, il y avait des ouvriers agricoles qui ont écrit en Languedoc. Avec leur façon d'écrire, bien sûr. Alors, on parlait de patois à l'époque. Hein. Parce qu'en fait,
avec un petit côté péjoratif,
et qui vient quand même de la Révolution, puisque c'est depuis longtemps qu'on appelle, on appelle patois tout ce qui n'est pas français. On parle patois si ce n'est pas la langue du roi, c'est du patois. Et patois, dans le sens péjoratif, hein, c'est sûr que c'est une langue, c'est même pas une langue, c'est un idiome que l'on parle aux animaux. En fait, on ne se comprend pas d'un village à l'autre. Voilà, ça, c'était l'idée.
La caricature qu'on peut en avoir, voilà, de ça. Oui.
Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, qu'est-ce que je voulais dire exactement?
on était donc sur cette question de la langue aujourd'hui, de sa variété. Voilà.
De la complexité de la notion de la langue. Et donc, ce qui est important, c'est l'enseignement. Je pense qu'enseigner une langue avec une écriture bien spécifique, parce que là, ce serait long à expliquer, donc il faut faire court, on n'a pas le temps. Mais en fait, il y a eu un renouveau linguistique au niveau au début du XXe siècle, qui s'est accéléré avec la libération après 1945. Mais déjà avant, il y avait un travail qui a été fait en concomitance avec les Catalans, avec Pompeu Fabre, qui est un des grands grammaticiens catalans, qui a créé l'écriture contemporaine du catalan. Et chez nous, c'était Alibert, qui a fait le même travail que Pompeu Fabre. Ils correspondaient d'ailleurs tous les deux. Et l'écriture occitane contemporaine vient de là.
Alibert qui a, si je ne me trompe, publié un dictionnaire occitan français qui est aujourd'hui une des références.
Oui, voilà, c'est un travail qu'il avait fait et qui mériterait d'être repris et d'ailleurs élargi. Il y a tout un travail à faire encore au niveau linguistique.
Alors, on va pas rester universitaire, entre guillemets, mais lecteur, soyons lecteurs. Alors, quels auteurs vous publiez aujourd'hui? Alors, en général, la politique de la maison, c'est beaucoup de bilingues, je crois, beaucoup de textes publiés occitan français, voire plus.
Alors oui, tout à fait. On a rarement publié que des textes en occitan, mais sûr, c'est pour ouvrir. Surtout, c'est de la poésie. Donc la poésie, ce sont des textes relativement courts. On peut se permettre d'éditer des ouvrages avec la traduction en français en regard. Alors c'est vrai qu'on publie aussi des textes en anglais, sur la demande de certains auteurs, ou en italien, parce que nous avons un auteur qui est des vallées occitanes en Italie, vers Cuneo, après dans la Valmaire. Donc tout ça participe de l'ouverture aussi. Hein. C'est-à-dire que logiquement, on devrait publier en occitan, sur une langue normale. Et ensuite, une traduction viendrait pour un autre éditeur, mettons, prendre notre texte en occitan, le traduire en français. Ce serait un fonctionnement normal d'une langue. On est dans une situation anormale. Donc, on est obligé de tenir compte du français. Et alors, c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur, nous sommes tous bilingues, même francophones, avant d'être occitanophones aujourd'hui. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils connaissent le français avec l'occitan souvent. Et donc, c'est nous-mêmes qui nous traduisons. C'est compliqué parce qu'en fait, on calque notre français sur notre texte occitan, mais on n'est jamais bien content du résultat. Ou alors, on invente un autre texte. Alors, il y avait des grands écrivains occitans, donc Bernard Mansiette, mettons, qui est dans les Landes. Son texte français était un autre texte. Mais lui, il avait une écriture extraordinaire, il écrivait beaucoup de sonnets. Mais c'était magnifique. Mais le texte français était indépendant du texte occitan, à la fin. Parce qu'en fait, il reprenait un autre texte. Par contre aussi, nous avons des traducteurs. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire un fonctionnement normal d'une langue. C'est-à-dire on écrit en occitan, et notre personne le traduit avec, bien sûr, en demandant pour voir si les mots qu'il emploie en français sont recevables par l'auteur aussi. Il faut quand même tenir compte du sens et aussi de la sonorité d'une langue.
Oui, un vrai travail de traduction, quoi, qui impose des échanges entre le traducteur et l'auteur pour bien s'assurer que la traduction est proche, en même temps adaptée à l'autre langue, mais proche de texte source. Alors, des auteurs, vous en avez publié un certain nombre, des jeunes, des moins jeunes.
Voilà.
Alors, ce serait intéressant que nos auditeurs puissent entendre. Bon, il n'y a pas que Max Rouquette. Max Rouquette, il est décédé, si je ne m'abuse. Il y en a des plus jeunes. Alors, vous parliez d'une jeune auteure qui n'est même pas trentenaire, c'est ça que vous
publiez ? Oui, tout à fait. Mais, par exemple, Maëlle Dupont, entre 25 et 30 ans aujourd'hui, et qui vit au Québec, a fait ses études sur Montpellier. Alors, c'est une nouvelle génération. Ce qui est intéressant, c'est une nouvelle génération qui n'a pas... Ce n'est pas la langue de la mamette ou du papette, comme nous, mettons, le papé et la mamée. Donc, c'était un peu ça. Hein, notre connaissance de la langue, c'était un peu ça, affectif. Alors qu'elle, pas du tout. Dans sa famille, elle ne parle absolument pas l'occitan. Et elle l'a appris à travers les calendrettes. Donc, elle a fait un cursus occitan à travers les calendrettes et ensuite un peu la faculté. Et elle s'est créée sa propre langue. Et en fait, c'est une langue intime qui fait partie de sa façon de voir le monde. Et en fait, elle nomme le monde à travers l'occitan. Et à travers ses voyages, parce qu'elle voyage beaucoup, elle a beaucoup voyagé dans toute l'Europe, quasiment. Elle a vécu en Catalogne, et aujourd'hui, elle vit au Québec. Et au Québec, elle traduit des auteurs québécois en occitan. Et elle a son succès parce qu'elle est rentrée dans un cercle littéraire, et elle fait découvrir l'occitan aux Québécois, qui sont tout à fait réceptifs, parce qu'eux-mêmes étant une langue minorisée au
eux-mêmes
Canada...
Eux-mêmes ayant, oui, une histoire compliquée.
Ils connaissent bien les problématiques d'une langue minorisée ou minoritaire.
Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez publié d'elle récemment, ou est-ce qu'il y a peut-être des projets de publication?
Alors, le recueil qu'on a publié, c'est « La couleur lente de la pledge », La couleur lente de la pluie. Voilà, ce sont des textes, en fait, plus près d'une nouvelle, mais en fait, c'est poétique, très poétique. Et c'est justement, ce sont ces voyages à travers l'Europe dont elle parle en bilingue. Voilà, bon. Après, je ne sais pas, je n'ai pas choisi de texte pour vous lire.
Non, mais on peut présenter déjà un certain nombre d'auteurs. Je pense qu'on puisse avoir comme ça un petit regard, que nos auditeurs puissent aller chez leur libraire préféré et dire « j'aimerais bien découvrir ça, j'en ai entendu parler ». Alors, quels autres auteurs phares vous avez en ce moment ?
C'est que, on n'en a pas parlé, justement, il faut rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à la fois les grands auteurs qui sont sortis de la Libération, c'est un peu la génération... Vous avez parlé de Max Rouquette. Max Rouquette, c'est la génération avant. C'est-à-dire il a vraiment commencé à écrire dans les années 30, 40. Bon, et bon, son grande œuvre qui est le Vers Paradis, ça s'est échelonné entre les années 30 et 60, 70, même à la fin. Donc lui, c'est encore autre chose. Lui, c'est peut-être la période... Il préparait la renaissance occitane de la Libération. En fait, il était encore le Philippe Riche entre Mistral et le renouveau occitan après la Libération. Et après, nous avons la génération de la guerre de 45. Donc il fallait absolument, en 45, mettre les fondements d'une occitanité moderne et se dégager du pétainisme. Parce qu'en fait, Pétain, quand même, a bien utilisé le local et le pays. C'est-à-dire, c'est ça. Et donc, il fallait absolument que la culture occitane se dégage de cette idéologie paysanne et rétrograde et passéiste.
Refermée sur elle-même dans une ouverture sur le monde.
Tout à fait. Alors donc, là, on a eu quand même des gens importants comme Robert Laffont. Robert Laffont qui était aussi, brassé-jaire, j'allais dire, en occitan, un brassé-jaire d'idées, c'est-à-dire qu'il a remué pour qu'en fait, on soit un mouvement social aussi. Et bon, ça, c'est important. On a collé à l'histoire contemporaine à partir des années 50. Donc il y en a beaucoup, comme ça. Donc il y en a toute une équipe. Bon, il y avait Bernard Lesfargue qu'on a publié. Vous avez Serge Beck aussi en Provence. Bernard Manciet dans les Landes. Tout ça, ce sont des grands auteurs de cette époque-là. Donc ils sont décédés aujourd'hui.
Alors, je vois sur la table un gros volume Vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus. Alors, oui. C'est de la poésie Henrique Espieux. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement.
C'est ça, c'est quasiment. Henrique Espieux en occitan, Espieux. Espieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un auteur, justement, de cette génération-là, hein, et qui a fait à la Libération, il est décédé. Donc, on va éditer en principe deux volumes. Là, c'est le premier volume qui sort, assez épais, vous voyez, il fait plus de 500 pages. Ce sont ses poèmes écrits entre 47 et 60. Donc 47, c'est ça, c'est juste après la Libération. Donc ce sont des auteurs qui sont nés de ça, de la résistance aussi quelque part. Hein. Mm-hmm. C'était des auteurs engagés. Et donc il était très peu connu. Il avait un recueil publié, il a beaucoup publié en revue, mais il a été un des précurseurs, enfin des défenseurs de la poésie occitane contemporaine. Ça s'appelait à travers la collection Message, qui a publié, justement, dans les années 47-50, les plus grands auteurs de l'époque. Même les auteurs anglophones, d'ailleurs, il y a un grand auteur anglophone qui a écrit en occitan à l'époque. Donc, c'est une ouverture, et Espieux, il fallait le réhabiliter. Donc, c'est tout un travail qui a été fait par Claire Toreil, qui est actuellement, qui était chargée à l'université d'un travail sur la littérature occitane. Donc il y a un travail à la fois sur sa correspondance et sur tous ces écrits qui n'ont pas été publiés. Donc il y a beaucoup d'inédits.
Alors oui, vous parliez là de l'Angleterre notamment. Alors je ne sais pas, peut-être à lire un petit passage. Je tombe sur un texte que je trouve, en tout cas la version française, tout à fait intéressant, qui s'appelle Londres. Peut-être nous lire la version occitane.
Lundre sembra la primiero din l'arnesc de citres puncho. La libertat pei sa dralia e la gran serp la caligno. E lo reiaume que trobo lo cristau de si juvento. E l'autre reiaume quatre en suna davant de colas. Que li nau que se permeno cargador de su maure e se pausa la coruno au glasi de sa capella.
Londres. Alors peut-être voilà la traduction, parce que français, tout le monde n'aura pas compris.
Londres s'en va la première, dans son harnais à trois pointes. Puis la liberté s'en vient, courtisée du grand serpent, et le royaume qui trouve le cristal de ses jeunes filles. Et l'autre, le royaume 4, dans le diamant de ses collines, où les bateaux se promènent avec leur chargement de marbre et se posent la couronne au glaive de la chapelle.
Voilà, c'est juste avoir un petit spécimen donc de Henrique Espieux, c'est ça?
Voilà.
Je l'ai mieux prononcé cette fois.
Voilà, c'est tout à fait, c'est bien.
Oui, voilà, ça... donc c'est le travail des éditions Jorn.
Voilà.
Voilà.
Donc oui, voilà.
Ça, des projets, alors vous êtes présent à la Comédie du Livre, normalement, oui. Je sais que je vous y ai plusieurs fois croisé.
C'est un rendez-vous que l'on ne manque pas en général, hein, parce que c'est important d'être en relation avec
nous. A priori, vous serez à la prochaine.
Tout à fait, oui, on est inscrit. On va faire des signatures et des lectures si on peut. Au moins des signatures sur le stand de la région. Hein, voilà.
D'autres rendez-vous avant la Comédie du Livre, qui est au mois de mai, on a encore quelques mois à attendre.
Non, pour le moment, on a surtout des rendez-vous pour l'été. Actuellement, non, pas trop, je ne crois pas. Pour le monde de la poésie, peut-être. Des fois, ça arrive au dernier moment. On est invité dans une médiathèque, par exemple, où ça nous arrive de faire des lectures. D'ailleurs, les lectures, c'est important.
Tout à fait. Alors, justement, je me disais, notre émission, on fait aussi, pour le mois de la poésie, hein, je ne l'ai pas évoqué dans d'autres émissions, on va proposer à nos auditeurs des petites vignettes de lecture poétique. Et je me disais, Jean-Paul Grassac, si vous en aviez un peu le loisir, ça pourrait être intéressant d'avoir un peu de poésie occitane qui viendrait comme ça de temps en temps sur l'antenne de Divergence pendant ce printemps des poètes. Voilà, alors on verra, on en reparlera hors antenne si vous voulez bien. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Édition Jeanne. Alors, on peut trouver votre catalogue en ligne ou quelque chose? Alors,
le mieux, c'est d'aller, bien sûr, sur le site des éditions sur Internet, où on a des extraits des textes et toutes les œuvres qu'on publie. Par contre, bien sûr, en librairie, on trouve nos ouvrages, surtout la librairie la plus importante de Montpellier, que je n'en aurai pas pour faire de la publicité, mais voilà. C'est une très bonne librairie. Sinon, on peut les commander chez les libraires aussi. Hein, donc, on travaille avec les libraires en priorité, ou les commander directement en ligne. Voilà.
D'accord. Et au fait, qu'est-ce que ça veut dire, le nom de l'édition?
Ah, jour. Ben, c'est le jour, en fait. Hein.
Le jour, tout simplement.
Le jour, la night. Et la nuit. Nous, on dit la nuit pour dire la nuit, ou la night. Voilà. Et le jour,
selon les régions d'Occitanie où on l'entend. Voilà.
Et ce que je n'ai pas dit au début, c'est qu'en fait, c'était une revue littéraire en 1980, hein, jour. En fait, on a été une revue littéraire pendant 6-7 ans. Et on a fait de la coédition avec un éditeur de Lyon, Fédérope. Et ensuite, on a volé de nos propres ailes dans les années 90. Et nous avons publié à peu près 2 recueils par an de poésie. Aujourd'hui, on publie un peu moins, c'est plutôt un recueil, 2 recueils quand on peut. Alors je vais finir juste en disant que ce roman, nous allons publier Sylvain Chabau. Alors Sylvain Chabau, c'est le chanteur de Mauresque Fracadub, un groupe connu des Montpelliérains surtout, mais ailleurs aussi, et qui écrit de la poésie, il a une très très belle langue, encore un jeune écrivain, il a une trentaine d'années. Voilà, donc son prochain recueil, ce seront des nouvelles que nous publierons peut-être pour la Comédie du Livre, et il sera présent lors de la Comédie du Livre.
Bien, eh bien écoutez, en tout cas, j'ai envie de vous dire, notre micro vous est ouvert pour venir parler des nouveautés que vous pourrez publier, parce que je pense qu'il y a un public pour, il y a des gens que ça intéresse, et puis ceux qui ne connaissent pas, ben, j'espère qu'on a des auditeurs curieux, je n'en doute pas. Donc découvrir, oui, il y a tout un continent poétique, littéraire, il n'y a pas que de la poésie, on parlait de nouvelles tout à l'heure, donc il y a tout ça à découvrir. J'encourage nos auditeurs à aller découvrir cela. Pour trouver, en savoir plus, vous allez sur Internet, votre moteur de recherche préféré, et puis édition Jorn,
J-O-R-N,
et vous trouverez en bonne place le site de l'éditeur, et vous pourrez avoir accès au catalogue. Il y a peut-être même des extraits, non?
Tout à fait, il y a des extraits, donc vous pourrez
déjà vous familiariser avec tout cela.
Grand merci, grand merci d'un coup de midate.
Merci Jean-Paul Cressac de ces quelques minutes passées avec vous, fort intéressantes, fort instructives. Et peut-être. Alors, comment on dit au revoir et bonne lecture?
Ah, mais pour dire al cop que viene. Adicia, c'est al cop que viene.
Voilà, et plein de découvertes prochainement. On va laisser l'agenda de côté parce que ce serait trop juste. À très bientôt et lisez en occitan, en catalan, en français, en anglais, en italien, en polonais, en ce que vous voudrez, mais lisez. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.